VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manirakiza en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du lundi 28 août 2017. Voici d'abord le sommaire. RDC, les médecins des hôpitaux publics durcissent leur grève. Au Kenya, la Cour suprême rendra son verdict dans quelques jours sur la réélection du président Uhuru Kenyatta. Préparatif pour la Tabaski.
Même le mouton, élément le plus symbolique de cette fête, est devenu un véritable casse-tête pour les chefs de famille.
Vous retrouverez Seydina Abagay pour les précisions. Paris abrite un mini-sommet Euro-Afrique sur la crise migratoire pour tenter de stopper la traversée périlleuse de la Méditerranée. La tempête Harvey au Texas, ici aux États-Unis, plus de 30 000 personnes vont dans les centres d'accueil suite aux inondations. Et gardez l'écoute pour suivre l'espoir et l'actualité économique peu après le journal. RDC, les médecins ont durci la grève entamée il y a plus d'un mois dans les hôpitaux publics. Seules les urgences sont assurées, mais seulement dans quelques hôpitaux, comme le précise Claire Morégibourg.
Nous avons radicalisé la grève. Les médecins ne consultent pas, on ne reçoit que les urgences. C'est ce qu'a déclaré le docteur Jean-Robert Mankoy, président du syndicat national des médecins de la République démocratique du Congo. Cependant, les banques de sang et le service de dialyse vont continuer à fonctionner, de même que les hôpitaux de l'armée et de la police. Cette nouvelle forme de grève sera observée jusqu'au 2 septembre. Selon le syndicat, ce débrayage vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur la détérioration de la condition des médecins qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Depuis le déclenchement de la grève le 21 juillet, aucun accord n'a été trouvé. À une semaine de la rentrée scolaire, les enseignants du public menacent également de ne pas reprendre le chemin de l'école.
RDC toujours, 2 soldats et 3 miliciens ont été tués en 3 jours de combat entre l'armée congolaise et des miliciens pour le contrôle d'une localité de l'est du pays. Un journaliste opposant au président Kabila s'est réfugié dans une installation de la mission des Nations Unies. Édouard Dié Tshitenge était poursuivi par des militaires qui tentaient de l'arrêter sur ordre d'un général à Kananga, dans le centre du pays. Le journaliste s'apprêtait à tenir une réunion d'opposants pour demander le départ du président Kabila avant la fin de l'année. Au Congo, un regroupement de femmes proches du président Denis Sassou Nguesso a appelé les autorités à tout mettre en œuvre pour rétablir la paix dans la région du Pôle avant la rentrée scolaire prévue en octobre. Au Burundi, la rébellion des forces républicaines du Burundi est devenue hier force populaire du Burundi. Elle est désormais commandée par le général Jérémy Niranyibagira, issu du CNDD-FDD au pouvoir, et le colonel Edouard Chimilima, son adjoint. D'après le porte-parole, le colonel Adolphe Manirakiza, ce changement vise à mettre fin à la confusion qui régnait dans le leadership des Forébou. Une ministre gabonaise a quitté son poste moins d'une semaine après sa nomination. Irène Patricia Boussamba a été entendue dans le passé dans une affaire de corruption présumée. Elle a renoncé à son poste de ministre délégué du budget pour convenance personnelle avant le premier conseil des ministres de vendredi dernier. Une cour de justice nigériane a ordonné aujourd'hui la saisie bancaire de 21 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du budget Diezani Alison Madueke. Il a été accusé de corruption après la confiscation de nombre de ses biens ces dernières semaines. Au Kenya, la Cour suprême a commencé à examiner le recours de l'opposant Raila Odinga qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'opposition a saisi la Cour suprême le 18 août. Les principales figures de la coalition NASA, dont Raila Odinga, estiment que les résultats transmis par le système électoral diffèrent des procès-verbaux issus des bureaux de vote et des circonscriptions. L'opposition kényane affirme que cela a affecté les résultats d'au moins 7 millions de voix. Pour sa part, la commission électorale assure que les données électroniques ne sont que des statistiques qui n'ont pas valeur de résultat. Elle ajoute que les éventuelles divergences ne peuvent relever que d'erreurs humaines sans incidence majeure sur les résultats finaux. Uhuru Kenyatta a été déclaré vainqueur avec près de 54% des voix et plus de 44% à Raila Odinga. La Cour suprême a jusqu'au 1er septembre, c'est-à-dire jusqu'au week-end prochain, pour rendre sa décision. En cas de validation, M. Kenyatta sera investi une semaine après pour un second mandat. Dans le cas contraire, la commission électorale aura 60 jours pour réorganiser une nouvelle élection présidentielle.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les autorités libyennes à relâcher immédiatement les migrants les plus vulnérables détenus en Libye. Dans un rapport publié aujourd'hui, le patron onusien dénonce de multiples atteintes aux droits de l'homme dans ce pays en proie au chaos. La marine libyenne a saisi un pétrolier étranger au large des côtes ouest du pays pour chargement illégal de carburant. Les 20 membres d'équipage philippin ont été ramenés et retenus à Tripoli pour être entendus par le procureur général. Une patrouille de la marine a intercepté le navire près de la frontière tunisienne à l'ouest de Tripoli. Deux Marocaines, porteuses de marchandises, sont mortes dans une embuscade au poste frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Le bilan porte à 4 le nombre de personnes décédées depuis l'ouverture de ce poste frontière début 2017. Les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta dans le nord du Maroc sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe et des accès privilégiés pour l'immigration clandestine africaine. Je vous le disais dans les titres, mini-sommet euro-africain à Paris sur la crise migratoire. Le président français Emmanuel Macron propose d'identifier au Niger et au Tchad les ressortissants qui ont droit à l'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible.
L'action que nous souhaitons conduire est aux conclusions du texte d'aujourd'hui, en redisant très clairement que tout cela n'a de sens que si cela s'inscrit dans la politique de long terme que nous souhaitons conduire, nous pays européens, en lien avec l'Union européenne, à savoir une politique de développement, puisque une grande majorité, justement, de ces migrants prennent ces routes de la nécessité au péril de leur vie, font vivre les trafiquants parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays. Et donc la politique de développement que l'Union européenne conduit et que nous conduisons sur le plan bilatéral doit évidemment être renforcée, et c'est ce que ce texte acte aussi.
Le président français Emmanuel Macron, en Afrique du Sud, un homme a ouvert le feu dans un théâtre bondé de Johannesburg après avoir perdu son téléphone, faisant un mort et 8 blessés. 2 millions de pèlerins du monde entier sont attendus cette semaine à la Mecque. Dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, ils vont effectuer le grand pèlerinage musulman, l'un des 5 piliers de l'islam. Tout fidèle est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Un scientifique et entrepreneur nigérien a mis au point un appareil capable de détecter la trace d'explosifs dans les aéroports et des maladies comme le cancer. C'est grâce à l'utilisation combinée de neurones et circuits électroniques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Houston, au Texas, les opérations de sauvetage se poursuivent suite au passage de l'ouragan Harvey. Les habitants de la 4e ville des États-Unis ont toujours les pieds dans l'eau et la météo annonce de fortes pluies pour les prochaines 72 heures. Gabi Dorsey pour des précisions.
Depuis samedi soir, les secouristes font de leur mieux pour atteindre des milliers de personnes isolées, tantôt sur un toit, tantôt dans une chambre presque à moitié envahie par les eaux. Gérald Gauthier nous dit qu'avec la persistance des averses, il ne peut que s'en remettre à la Providence.
On prie Dieu, il y a beaucoup de maisons qui disent qu'ils sont envahies. Les gens doivent rester sur le toit pour être évacués. Les services publics ont continué de fonctionner dans certaines maisons. Chez nous, on a de l'eau et de l'électricité.
Mais ce n'est pas le cas pour de nombreux résidents. Certaines localités ont déjà enregistré plus de 60 cm de pluie. Les services d'urgence sont dépassés, mais les citoyens privés se sont servis de leur propre bateau toute la journée d'hier et ce matin pour secourir leurs voisins. Quant aux autorités, Brock Long est le directeur de FEMA, l'agence fédérale de secours. Nous essayons d'aider, dit-il, de renforcer les efforts de recherche et de sauvetage rapide sur une vaste étendue, car plus de 30 à 50 comtés auront été éventuellement touchés au Texas. Le président Donald Trump se rend sur les lieux demain mardi, alors que son administration a déjà promis de l'aide aux États du Texas et de la Louisiane après le passage de l'ouragan.
Gabi Dorsil, un attentat à la voiture piégée a fait 11 morts et 26 blessés dans l'un des plus grands centres commerciaux dans l'est de Bagdad. Des membres des services de sécurité se trouvaient parmi les victimes. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il rappelle le mode opératoire de l'État islamique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a défendu aujourd'hui, devant les dirigeants israéliens à Jérusalem, le rêve de voir un jour un État palestinien vivre en paix avec Israël. Monsieur Guterres a répondu aux accusations de parti pris anti-israélien et a revendiqué le droit de critiquer les politiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré que son mouvement islamiste avait accru ses capacités militaires face à Israël grâce à l'amélioration récente de ses relations avec l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, suivez la Minute Éco avec Dili Diko.
En RDC, les autorités ont mis en place une restriction temporaire d'importation de plusieurs produits de grande consommation dans l'ouest du pays. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a indiqué qu'il s'agit d'une interdiction de 6 mois, dont l'objectif est de lutter contre la contrebande et de protéger l'industrie locale de ceux qui pratiquent des prix en dessous du coût de production. Les produits concernés sont le ciment gris, le sucre, la bière et les boissons gazeuses. Le ministre a également interdit l'exportation des écorces de quinquine pour privilégier leur transformation en antipaludéens par l'industrie pharmaceutique congolaise. Au Nigeria, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, veut construire une université de classe mondiale à Abuja. La fondation Dangote a annoncé qu'un financement de 550 millions de dollars a été alloué à ce projet et le terrain devant accueillir la nouvelle infrastructure a déjà été acquis. L'université sera axée sur la technologie avec des enseignants de renommée mondiale. En Angola, 131 000 emplois ont été créés dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au cours des 8 premiers mois de 2017. Eugenio Clemente, directeur de l'Institut de développement du tourisme, a indiqué que la majeure partie de ces emplois est allée en direction des jeunes. En 2016, les entrées dans le pays ont reculé d'environ 50 000 unités par rapport aux 600 000 visiteurs de 2015, mais 2017 sera placé sous le signe de la reprise.
Je reçois Yacouba Ouedraogo pour votre page sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà, un autre transfert qui fait monter les enchères. Ousmane Dembélé qui y a foulé pour la première fois la mythique pelouse barcelonaise.
Tout à fait Eric, l'attaquant français recruté vendredi par le FC Barcelone pour 147 millions d'euros, bonus y compris, a été présenté au Camp Nou devant 18 000 supporters. Arrivé pour 5 ans, Dembouze, comme on l'appelle affectueusement, a hérité du numéro 11 de Neymar avec la lourde tâche de succéder au Brésilien au sein de la ligne d'attaque du Barça. À 20 ans, Ousmane Dembélé devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des transfert en football, bien sûr, derrière les 222 millions d'euros de Neymar.
On parle aussi de Mbappé qui pourrait battre, disons, le record sur Dembélé. Et la joie de Dembélé, Yacouba, a suscité la colère de Seri qui a manqué de peu d'être un blaugrana cette saison.
Effectivement, Eric, le milieu ivoirien de Nice, Jean-Michel Seri, pressenti pour rejoindre le FC Barcelone avant que les négociations se grippent, a vivement reproché aux dirigeants niçois de n'avoir pas tenu leurs promesses. Seri, 26 ans, explique que l'opération ne s'est pas concrétisée à cause des exigences financières de l'OGC Nice qui a demandé plus de 40 millions d'euros au Barça avant de la libération du joueur. Le sort de l'Ivoirien a été scellé aujourd'hui même par le club espagnol qui a déclaré que la piste Jean-Michel Seri est désormais écartée.
On change de rythme. Yacouba, retour sur l'afro-basket au Mali 2017. Clin d'œil à Astou Traoré.
À 36 ans, Eric, la Sénégalaise a été élue meilleure joueuse du tournoi. Déchue du titre de championne d'Afrique par le Nigeria, la joueuse peut se contenter de ce trophée. Elle a terminé meilleure marqueuse avec un total de 173 points. Dans le 5 majeur du tournoi, en plus d'Astou Traoré, on retrouve Nanyuma Koulibaly du Mali, Léa Dongwe du Mozambique, Evelyne Akator du Nigeria et Aïtélé Lucas de l'Angola.
Merci Yacouba.
L'écoute du monde aujourd'hui.
l'ambiance n'est pas extraordinaire. D'habitude...
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Vous écoutez donc Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous entamons les dossiers du jour. Kinshasa a décrété un deuil national de 2 jours à la mémoire d'au moins 140 victimes d'un glissement de terrain près du village de Tara dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Cette mesure intervient 12 jours après le drame. Morgane Guiriek a joint à Beni le directeur du journal écoliste Nikèze Kibel Beloka.
L'ambiance n'est pas extraordinaire. D'habitude, lorsqu'il y a deuil national, ça se remarque par les drapeaux. Tous les drapeaux sont en berne. C'est ça le grand signe du deuil national. Pour le reste, les activités continuent normalement. Mais le symbole de l'État, qui est le drapeau, est en berne un peu sur toute l'étendue du territoire national.
Ce deuil est décrété 12 jours après la catastrophe. Comment l'expliquer?
Il faut dire que nous sommes un pays qui traverse beaucoup de moments très difficiles. C'est vrai, ça ne peut pas expliquer cela, mais la mobilisation a été trop faible, que ce soit au niveau national qu'international. Dans ces débuts, le gouvernement provincial de l'Ituri a été sur le lieu et a essayé de faire tant bien que mal ce qu'il lui convenait de faire. Et ce n'est que cela a 2-3 jours que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu là-bas et c'est à la suite de l'évaluation et de l'aide qu'il a apportée qu'on a décrété le deuil national. C'est vrai, comme vous le dites, ça a quand même pris du temps pour décréter le deuil, mais bon, on peut expliquer que le gouvernement central avait besoin d'avoir tous les paramètres possibles, mais bon.
Où en sont les autorités dans la gestion de la crise?
La mobilisation, elle est trop faible. Il faudrait que tous les bras puissent concourir à ce que la population soit soulagée. D'abord, arriver à trouver des logis, à déplacer toutes ces populations qui étaient sur des escarpements, leur trouver un endroit viable et leur apporter de l'aide nécessaire, éviter aussi des épidémies. Et là, il faut nécessairement compter sur la mobilisation de la communauté internationale, mais pas seul le gouvernement congolais ne peut rien faire.
Quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela?
Il faudrait qu'il y ait un plan d'aménagement du territoire pour trouver des sites viables. Le village a été construit pratiquement en dessous des grosses pierres. Alors il a suffi simplement que les pierres se détachent pour tomber sur la population. Donc il faut un plan vraiment urgent d'aménagement. L'urbanisation qui doit tenir compte aussi de la démographie galopante, parce que ce problème ne se pose pas simplement à Ituri, ça se pose aussi à Kinshasa. Et dans la ville de Beni où nous nous trouvons, le maire de la ville d'ailleurs a demandé à la population qui vit dans les mêmes conditions, donc sont sous les escarpements, de vider les lieux. Donc il n'y a pas une politique générale qui puisse aider la population à s'installer en tenant compte des conditions naturelles qui puissent exister dans notre pays.
Nikèze Kibel Beloka du journal des coulisses à Beni.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les médicaments de rue sont toujours visibles dans la capitale économique Abidjan, malgré la machine répressive déployée par le gouvernement. Notre correspondant sur place, George Ibrahim Tunkara, s'est rendu dans la commune d'Adjamé, l'un des points névralgiques de la vente de ces médicaments.
Un remontant, la fatigue.
Nous sommes au cœur du grand marché d'Adjamé, plus précisément à Roxy. Ici, c'est la plus grande pharmacie à ciel ouvert de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Le 3 mai dernier, une centaine de policiers ont pris d'assaut cette place. Les échoppes en tôle des commerçantes ont été détruites. 30 tonnes de médicaments saisies. 3 mois après, les commerçantes et leurs médicaments sont de retour. Comment donc expliquer le retour de ces vendeuses à Adjamé Roxy? Pour le docteur Omar Toué du comité de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments, il faut leur trouver d'autres activités et s'attaquer au réseau interne d'approvisionnement.
Comme la majorité sont environ 8000 femmes, il y a le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui doit pouvoir les approcher pour les réinsérer dans la vie. Quoi qu'on dise, c'est des mères de famille qui s'occupent de leur famille. Certaines personnes du secteur pharmacie qui sont véreuses, qui approvisionnent. Mais je pense qu'ils sont très infimes. Une des causes aussi du retour, c'est que les opérations sont ponctuelles.
À Adjamé Roxy, on trouve un peu de tout, des antibiotiques, des antipaludéens et antirétroviraux. Pour Dr Omar Toué, la pauvreté et l'ignorance sont des causes de l'intérêt du grand public pour ces produits.
Il y a la pauvreté qui est annoncée comme une des causes. Cela n'est pas toujours vérifié dans la mesure où les médicaments antipaludiques, par exemple, les antipaludiques, les antituberculeux et les antirétroviraux qui sont gratuits, les gens préfèrent aller payer au marché noir ces médicaments-là, alors que dans le public, ces médicaments sont gratuits après une consultation. La principale raison, c'est le manque d'information. Les gens ne sont pas informés sur la dangerosité de ces médicaments, c'est-à-dire les risques liés à l'utilisation de ces médicaments de la rue. Et troisièmement, une des causes, c'est l'absence de sécurité sociale.
Dans les rues d'Abidjan, les avis sont partagés sur ces médicaments.
On n'a pas de moyens pour aller à la pharmacie, pour aller à l'hôpital. Pareil, souvent quand on va à l'hôpital, ordonnance qu'on nous donne, on n'arrive pas à payer.
Compte tenu des effets néfastes des médicaments de la rue, voilà pourquoi je n'achète plus. Puisque j'ai constaté que souvent ça engendre certaines maladies.
Selon le gouvernement ivoirien, le marché des médicaments illicites représente 30% des ventes des médicaments en Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de plus de 40 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de taxes destinées à l'État. Georges Brentoun-Kara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Aïd al-Adha, ou l'Aïd el-Kébir, appelé Tabaski, est la fête la plus importante de l'islam. Au Sénégal, la vie est rythmée depuis plusieurs jours par les préparatifs de cette fête. Le mouton est un casse-tête, les habits plutôt coûteux. Le marché HLM de Dakar résume cette fête religieuse agrémentée par une culture trop festive. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Cette année, les ventes ne marchent pas tellement, car les pluies fréquentes nous obligent à couvrir nos produits en permanence, ce qui restreint leur visibilité.
Comme Major, les marchands ne sont pas vernis à cause de l'hivernage, contrairement aux tailleurs qui se frottent les mains. Au milieu des crépitements de ces machines, Lassana Diarra confie ses bonnes affaires.
En ce moment, on ne se plaint pas trop, car les affaires marchent bien. D'habitude, c'est les coupures d'électricité qui nous handicapaient. Mais maintenant, il n'y a presque plus de délestage. C'est plutôt nos clients qui nous posent des soucis avec leurs nombreuses réclamations et leurs pressions constantes. Mais nous essayons toujours d'être compréhensifs, car à la fin, on y trouve notre compte. Malgré la conjoncture, les tissus et les boubous coûtent au minimum entre 10 et 15 000 francs.
Non loin de l'atelier de Lassana, Hassan Diop se pavane au milieu de ses dizaines de moutons. Il souhaite les vendre à bon prix, mais il est aussi inquiet pour certains chefs de famille.
Au Sénégal, les moutons ne sont pas accessibles pour tous. Même quand il y en a beaucoup, les prix ne sont pas très abordables. Et c'est assez normal, car nous achetons les moutons chers. Ensuite, nous nous occupons d'eux pendant plusieurs semaines. De ce fait, à la revente, nous sommes obligés de penser à faire des bénéfices. Ce qui fait que les prix sont toujours élevés. D'un côté, nous pensons aux chefs de famille qui tirent le diable par la queue pour trouver un mouton et passer la tabaski dignement. De l'autre, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui peuvent acheter nos moutons, quel que soit le prix.
Pour Ndaïli Segueï, il est tout à fait normal de faire toutes ces dépenses pour une fête aussi prestigieuse que la tabaski.
C'est une tradition bien sénégalaise. Personne n'y peut rien. Au Sénégal, nous sommes des musulmans qui tenons beaucoup à cette fête, qui d'ailleurs est la plus grande et la plus belle pour notre communauté. C'est pourquoi nous mettons tout ce que nous avons. Toutes nos économies y vont. Nous achetons des chaussures pour les enfants, des moubous et tout ce qui peut rendre cette fête belle. C'est vraiment une grosse dépense financière.
Au Sénégal, les traits culturels déteignent sur la pratique religieuse au point que la tabaski y est fêtée avec un faste qui n'a pas son pareil dans la sous-région africaine. Même le mouton, élément le plus symbolique de cette fête, est devenu un véritable casse-tête pour les chefs de famille qui sont obligés d'en trouver le plus cher possible pour le simple paraître social. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La La tempête Harvey continue de sévir au Texas. Plus de 30 000 personnes sont attendues dans les centres d'accueil d'urgence suite aux inondations. La situation est toujours critique, notamment à cause des deux barrages proches de Houston, avec un risque de rupture des digues. Claire Morin-Gibour a rejoint la présidente de l'association Houston Accueil, Claire Plessis.
Alors, dans le quartier où nous nous trouvons, pour l'instant, il pleut beaucoup. La pluie s'arrête, la pluie revient. L'eau inonde certaines portions du quartier. Les routes sont inondées, mais ça monte et ça descend. C'est pas une situation figée, donc c'est toujours en évolution.
Vous avez dû évacuer votre maison?
Oui, nous-mêmes, hier soir, on a préféré, comme nous avons une maison de plein pied sans étage, nous avons préféré ne pas prendre de risques et nous avons pu aller chez des amis. Donc on a pu traverser quelques rues à pied, on avait de l'eau jusqu'à mi-cuisse pour arriver jusqu'à chez nos amis. Mais on a pu arriver et on a pu passer la nuit chez eux au sec.
Quelle est la situation à Houston on est en fin de matinée à l'heure où on se parle.
Tout à fait. Bah, écoutez, pour ce qu'on peut dire pour nous et puis pour nos amis et les personnes avec qui j'ai pu être en contact par Facebook et compagnie, pour l'instant, les gens sont plutôt au sec. Il y a eu quelques situations dans certaines familles où l'eau était un petit peu au rez-de-chaussée de la maison, mais sans grande gravité. Et puis il y a une solidarité qui s'organise entre les personnes, les voisins, les amis, les voisins américains. Tout le monde communique beaucoup et essaye d'apporter un maximum d'aide aux personnes qui en ont besoin. Donc pour l'instant, c'est très calme. On est tous un peu dans l'attente et le statu quo et on essaye d'avoir des nouvelles d'autres personnes et de voir que tout le monde va bien.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à cause des deux barrages qui menacent de se fissurer ou de se casser?
Oui, il y a une inquiétude, on ne va pas le nier, mais on espère que les ingénieurs qui contrôlent ces barrages vont pouvoir continuer de la relâche de l'eau en toute sécurité. Donc pour l'instant, la première relâche s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu. On s'attendait à pire. Pour l'instant, dans notre quartier, et nous, on est vraiment à l'est, au sud-est de ces barrages. Et pour l'instant, le niveau de l'eau n'est pas pire qu'il n'était avant la relâche de l'eau. Donc on espère que ça va être bien pris en main par les autorités et de toute manière, il n'y a pas de raison.
Claire Plessis, habitante de Houston et présidente de l'association Houston Accueil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Zuber Altaïb. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et profitez de votre vie. Elle vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.